Oui, il y en a cinq qui étaient folles. La traduction liturgique dit insouciante, mais cela rend la parabole un peu anecdotique, alors qu'elle est grave. Et surtout, ça efface l'arrière-plan biblique de cette parabole. Dans la Bible, sagesse et folie sont les deux pôles de la condition humaine. Et la pire des folies, c'est le péché, car elle me fait vivre à l'envers de ma vocation et de mon vrai bonheur. Mais ce qui est fou, c'est aussi notre inattention, c'est aussi l'adoration des idoles, c'est l'oubli de Dieu, c'est vivre pour rien, la lampe sans huile. Dans la parabole, c'est la seule différence entre les jeunes filles sages et les jeunes filles folles. Les 10 étaient invités. Les 10 ont pris leur lampe. Les 10 sont sortis. Les 10 sont partis à la rencontre de l'époux. Les 10 se sont assoupis. Les 10 dormaient. Notez l'imparfait, parce que dans le récit, ça veut dire que c'était vraiment une situation qui dure. Ce n'est pas vraiment un accident, un moment. Elles sont vraiment complètement ensommeillées. Et les 10 se réveillent. Les 10 se mirent à préparer leur lampe. Contrairement à d'autres paraboles, comme la parabole du serviteur, heureux le serviteur qui sera vigilant quand son maître viendra, on ne le reproche pas en fait de s'endormir. Au contraire, l'attente est longue, l'attente est très longue, on va jusqu'au milieu de la nuit, au plus profond de la nuit. C'est pourquoi d'ailleurs les lampes s'éteignent à la longue les unes après les autres. Le problème, ce n'est pas de dormir, le problème, c'est le réveil dans la nuit. Il faut une lampe, et une lampe allumée. Il faut donc que nous nous demandions pourquoi les unes ont une réserve d'huile et les autres n'en ont pas. Les premières sont avisées et sages. Elles savent que la vie est dure, que la nuit est longue, que les réserves s'épuisent. Et donc elles ont pris leur lampe, mais aussi elles ont pris des fioles d'huile pour la lampe. Leur appel, leur réponse s'inscrivent dans la durée, dans le long terme. Par excellence, ce sont des fidèles. Quel beau mot, nous sommes des fidèles. Les autres, insouciantes en effet, mais au sens tragique de l'inconscience et de l'irresponsabilité, elles n'ont pas pris d'huile, elles n'ont pas prévu, elles n'ont pas prévu voir à l'avance les choses. Elles vivent dans un présent insignifiant, sans passé et sans avenir, vraiment insensé. Et là, je m'arrête un moment et je me dis, si jamais ces 10 jeunes filles étaient l'image de l'Église, de nos communautés. Plutôt que de notre façon de vivre le mystère et la grâce de l'Église. Une Église rayonnante dans l'obscurité du monde. Au contraire, une Église mal réveillée, plus ou moins éteinte. Au milieu de la nuit, en tout cas, il y a un cri qui résonne. Voici l'époux qui vient, sortez à sa rencontre. Pour répondre à l'appel, à cet appel, il faut que brûle et que brille la flamme de la foi. Mais pour qu'il y ait une flamme, il faut que l'huile du désir et de l'amour l'alimente. Les théologiens appelleront ça l'onction de l'Esprit-Saint, qui fait de nous des flammes vivantes au milieu du monde. Il y a deux verbes qui reviennent plusieurs fois dans cette parabole. C'est sortir. Et rencontrer. Il faut sortir pour rencontrer. En effet, la rencontre de l'autre suppose la sortie de soi. Il faut que je sorte de mes pensées, que je sorte de mes occupations, que je sorte de mon monde à moi pour entrer dans le monde de l'autre que je veux rencontrer. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Pour venir à notre rencontre, il a quitté la gloire à laquelle il avait droit pour s'abaisser jusqu'à nous, venir chez nous. Sortir pour rencontrer. Comme en écho, les deux lectures de ce jour insistent. La sagesse va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Et saint Paul annonce aux Thessaloniciens et à chacun de nous qu'à travers notre vie et notre mort, nous sommes emportés sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. En ce temps de confinement, chers amis, ces mots prennent un sens fort plus que d'habitude, pour pas dire un sens douloureux. Sortir à la rencontre de l'époux. Nous ne sortons pas, nous sommes confinés. Sortir à la rencontre du bien-aimé. C'est le mystère même de la messe quand elle, c'est le mystère même de l'Église quand elle célèbre la messe. L'Eucharistie, c'est le sacrement des noces de l'agneau. La nouvelle traduction du missel, qui devait nous être donnée pour le premier dimanche de l'Avent, mais qui a retardé d'une année, rétablit la bonne traduction de la parole du prêtre au moment de la communion. Il ne dira plus « Heureux les invités au repas du Seigneur », c'est une formule juste mais un peu banale, la formule liturgique officielle, c'est une citation d'Apocalypse, c'est « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». La messe n'est vraie qu'en présentiel, comme on dit maintenant. Et, chers amis, c'est la grande tentation avec le confinement et les messes vidéo, c'est qu'on risque de s'habituer au virtuel, de plus sortir, de plus bouger de son fauteuil et de son écran. Non, la présence réelle, celle qui nous manque, mais que nous rejoignons intérieurement, spirituellement, par la sacrement du Seigneur, mais la présence réelle, c'est le corps. Il n'y a pas de présence réelle sans le corps. Le corps du Christ. On pense tout de suite à la communion, et c'est vrai. C'est une rencontre intime avec le Seigneur. Je ne peux pas donner la communion à distance, je ne peux pas donner la communion par Zoom, et même le pape, quand il célèbre la messe et qu'elle est télévisée, il ne peut pas vous donner la communion. Il faut la présence. Mais la communion et le corps du Christ, c'est aussi nous, les uns et les autres, ensemble, nous formons le corps du Christ, qui est l'Église. Nous devenons le corps du Christ au milieu du monde. Et nous ne pouvons pas être vraiment chrétiens sans les uns et les autres, sans être avec les uns et les autres. C'est au sens de la célébration du dimanche, où chacun quitte sa chapelle personnelle pour venir à l'Église du peuple de Dieu. Eh bien, chers amis, nous allons maintenant garder un temps de silence, en prière, à l'écoute du Seigneur. Peut-être, je me propose à moi-même d'écouter intérieurement ce cri qui résonne dans la nuit. Sortez à la rencontre du Seigneur.